Alors aujourd'hui, nous sommes au FOF. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le fucking off. C'est ça, donc une partie très très off du festival d'Angoulême. Et nous sommes avec Laurent des éditions Matière. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Nous sommes dans une pièce qui est dédiée aux éditions Matière puisque c'est une exposition sur Yuichi Yokohama dont nous avons parlé récemment, le livre Baby Boom pour lequel nous étions tous très emballés. Alors ce qu'on va te demander Laurent, c'est un peu de nous parler de cette maison d'édition qui a l'air assez particulière puisque vous vous définissez comme agissant à la fois dans la bande dessinée, dans les arts plastiques et dans la théorie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
On a créé la maison d'édition en 2003 après de longs préparatifs. On était assez nombreux au départ à la création de cette maison-là, qui voulait être une maison d'édition généraliste. On voulait publier de la littérature, de la bande dessinée, des manuels, toutes sortes de choses. Il se trouve que le premier auteur qu'on a rencontré, c'est Yuichi Yokoyama, et ça nous a tout de suite déterminé vers la bande dessinée. Et puis on a, dans la foulée, trouvé un diffuseur qui était le Comptoir des Indépendants à l'époque, le diffuseur de l'association de Cornelius, des Requins Marteaux, etc., de la bande dessinée dite indépendante à ce moment-là. On s'est finalement resserré sur la bande dessinée, on a fait que ça. Et puis le groupe a évolué, on est devenu moins nombreux, et tout en conservant la ligne éditoriale qui était celle de la maison généraliste au départ, le nom, édition matière, et puis quelques orientations un peu dures comme ça, qui sont assez rares dans la bande dessinée, quoi. Des lignes éditoriales par exemple, c'est pas souvent qu'on en rencontre en bande dessinée. Surtout dans la bande dessinée indépendante, où l'idée c'est souvent de laisser la liberté aux auteurs, d'avoir peu de collections ou des collections un peu indéfinies. Oui, c'est plus une question de format qui se joue qu'une question de ligne réellement, d'écriture. Et surtout la bande dessinée indépendante il y a 15 ans, qui était quand même vachement basée sur l'ouverture tous azimuts de la création et qui cherchait au contraire à ouvrir plutôt qu'à resserrer les choses. Nous on est venus pour resserrer. C'est pas le beau rôle, hein. Mais on l'a fait, on l'assume. Donc on publie très peu. Depuis 2003, on a quoi, un peu plus de 15 titres au catalogue. On publie entre 2 à 3 titres par an. C'est très très peu. Si bien que ça nous permet d'abord de pouvoir les faire, ces titres-là, puisqu'on travaille la nuit, le week-end, en dehors de nos journées de travail rémunérées. On pourrait pas en faire beaucoup plus, et puis c'est aussi bien, c'est le nombre qui correspond aussi au projet qui nous intéresse et qu'on est susceptible de porter et d'accueillir à travers cette ligne, donc c'est bien.
Ici l'expo de Yokohama, c'est... les gens, quand on dit qu'on est dans une expo de Yokohama, les gens imaginent peut-être qu'on a sous les yeux des planches, mais pas du tout en fait, on a de la sérigraphie, et c'est très porté sur le procédé. J'ai l'impression que les éditions matières, quand vous lancez un livre, c'est plutôt dans une galerie que dans une librairie. Ou... Vous êtes peut-être plus intéressé par le procédé que par le récit ?
Le procédé, non. L'exposition est peut-être un peu trompeuse de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, c'est une exposition de sérigraphie et qui expose le procédé sérigraphique, comment ces images ont été obtenues. Mais il faut dire aussi que là, on n'est pas seul. Les sérigraphies ont été coproduites par Collection Revue, qui est une revue qui s'intéresse au dessin contemporain à travers des entretiens avec des dessinateurs, menés par des dessinateurs. Et puis avec l'Institut Sérigraphique, en l'occurrence Séverine Basquert, qui se nomme comme ça. C'est elle la sérigraphe et c'est elle qui tient beaucoup à exposer la façon dont elle travaille, parce qu'elle a une approche de la sérigraphie qui est très très... très technique pour le coup, mais très, très subtil aussi, très sensible, et qu'on peut comprendre, il me semble, on peut le comprendre bien sûr en voyant les images, mais si on n'y connaît pas grand-chose à la sérigraphie, on ne se rend pas compte de la qualité incroyable des images qu'elle produit. Donc c'est ça qui justifiait en fait de s'intéresser au procédé. Après, quand on sort un livre, moi je trouve qu'il a aussi bien sa place dans un rayon de bande dessinée, dans un magasin de bande dessinée, que dans une galerie d'art contemporain. Notre travail, il est justement d'agir à l'interface de ces deux champs, sans forcer et sans les mettre en opposition, ni les écarter. Enfin, l'idéal, ce serait de faire un lancement dans un lieu qui regrouperait les deux. Il y en a quelques-uns comme ça, le Mont-en-l'Air à Paris, par exemple, la librairie-galerie Mont-en-l'Air, qui joue assez bien sur ces deux registres-là. La forme passe en effet avant la substance ou avant la chose exprimée, quoi, en effet. Ce qui ne veut pas dire qu'elle l'élimine. Mais là, pour le coup, il y a une mise en tension, il y a une forme de lutte entre la forme et ce que la forme porte. Et nous, on se situe clairement du côté de la forme, en effet, sans pour autant tomber dans un pur formalisme, qui serait l'écueil majeur auquel on pourrait se confronter. C'est pour ça que Yokoyama est pour nous l'auteur, notre auteur phare et notre auteur manifeste. C'est lui qui, pour nous, incarne le mieux cette ligne-là, quoi. Quelqu'un qui, à la fois, dit quelque chose et exprime des choses très personnelles, un univers et des récits minimaux, mais des récits quand même, et qui, pour autant, ne sombre pas dans le pathos, dans l'expression des sentiments, dans le scénario, dans un excès de récits et dans le bavardage, quoi. Il s'y passe peu de choses, mais les choses qui s'y déroulent sont réelles.
Dans Baby Boom, c'est vrai que... Donc moi, j'ai découvert Yokoyama sur ce livre-là. Ah oui. Ça a été le gros coup de cœur, mais il y a d'abord un impact visuel. Parce que... Après, j'aimerais bien qu'on vienne, mais peut-être avec votre collègue, plus sur le procédé de fabrication, parce que ça, c'est assez admirable de voir comment ce livre a été imprimé. Donc il y a un premier impact visuel, et en même temps, il y a un récit qui est super intense, en fait. Enfin, c'était en tout cas ce qui ressortait de la chronique qu'on avait fait à la radio. On était tous assez estomaqués.
Et pourtant basé sur la trivialité des actions. Mmh. Parce que le récit est intense, il s'y passe des choses denses. Et en même temps, cette densité tient à très peu de choses, quoi. Mmh. Il s'agit de prendre une boisson dans un distributeur automatique, de faire du hula hoop pendant plusieurs cases, de se promener au bord d'un bassin. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Mais en effet, on y prête une attention. Il y a une intensité dans ce peu de choses qui est très, très grande, ouais, et qui est accentuée par la tension générée par les couleurs, par l'usage qu'il a de deux, trois couleurs à chaque planche.
Alors, une question par rapport à ce livre. Pourquoi on a à la fin ces textes qui nous redisent avec les mots tout ce qui s'est passé, parce que donc c'est un récit muet, et donc c'est un choix assez étonnant.
Ouais, c'est un choix que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à accepter. En fait, il a fait ça pour pas mal de livres précédents qu'on a publiés sans les commentaires à la fin, parce que je les trouvais un peu ridicules, un peu injustifiés. Donc on les a écartés, ça coûtait moins cher en traduction, en plus c'était assez commode. Et on publiait la BD telle qu'elle, et puis ça suffisait, c'était pas la peine de les commenter en deux fois. Et puis ensuite on a publié Jardin, parce que jusqu'à présent il avait fait que des bandes dessinées muettes, ouais, en effet. Et puis Jardin, d'un seul coup, se mettait à parler, ce qui était, c'était l'intérêt. On l'avait d'ailleurs, je lui avais demandé, on discute parfois de l'orientation que va prendre son travail, et puis je lui avais dit, tiens, ce serait intéressant de savoir comment ça pourrait parler chez vous, quoi. J'aimerais bien avoir une bande dessinée qui parle, et du coup il s'était lancé là-dedans. Dans ce récit-là, ce long récit qui s'appelle Jardin, et où les personnages parlent, dialoguent, et on s'aperçoit que les personnages, face au paysage typiquement yokoyamien, face aux dispositifs architecturaux, artistiques, sculpturaux de Jardin, ces personnages ne savent pas du tout où ils se trouvent et ce qu'ils sont en train de voir. Et en fait, ils se posent constamment des questions, alors qu'eux-mêmes semblent appartenir à ce monde. Ils sont masqués, costumés, ils sont complètement en adéquation visuelle avec ce monde-là. En réalité, ils se posent les mêmes questions que nous, et ils spéculent, ils se demandent ce que c'est que ce truc qui vient de se lever au-dessus de la rivière. Et ben, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Ah oui, ben, peut-être pas. Ah, puis là-bas, qu'est-ce que c'est? Et puis on n'a toujours pas répondu à la question qu'on va déjà voir le procédé suivant. Si bien qu'ils nous laissent sur notre faim, et eux-mêmes sont dans un perpétuel appétit de ce qui va venir. Et c'est là que je me suis aperçu que le texte chez Yokoyama avait cette qualité de redondance et qui n'était pas une répétition. C'est une façon de reformuler les choses qui, pour autant, n'élucide aucun mystère, ne répond à aucune question et relance en réalité l'opacité du récit et l'intérêt qu'on porte au récit. C'est comme une espèce de... Ça se présente comme une élucidation, comme un éclaircissement, et c'est en réalité un redoublement de l'opacité. Et du coup, c'est vraiment complètement partie prenante de l'intérêt de l'œuvre. Œuvre que moi, je rapproche énormément de Raymond Roussel, l'écrivain de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Écrivain français qui écrivait des choses complètement irrecevables pour ses contemporains, enfin, des espèces de récits fous qui étaient basés, comme Yokoyama, sur des descriptions de procédés, de dispositifs, et qui met en scène des personnages qui sans cesse... Raymond Roussel nous expose un procédé, et puis ensuite les personnages le décrivent et éventuellement l'expliquent, et on est face à des récits en chaîne comme ça de la même chose, racontés à travers divers points de vue. Et voilà, enfin, pour moi, Yokoyama est le Raymond Roussel du 21e siècle. Et en atteste cette postface, ouais, où les choses sont répétées et pour autant, me semble-t-il, ne perdent pas de leur vigueur. Et certaines personnes, certains lecteurs m'ont dit qu'ils avaient lu la postface indépendamment des récits et qu'ils y trouvaient le même intérêt qu'à lire la bande dessinée. Il y avait comme ça cette espèce de fraîcheur d'une description très factuelle, très sèche et en même temps intrigante, mystérieuse.
Oui, moi justement, tu parlais de Yokoyama qui était vraiment l'auteur phare de la maison, puisque sur vos 15 bouquins, il y en a au moins 6 ou peut-être même 7. C'est le 7e de Yokoyama. Comment vous l'avez rencontré? Enfin, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez atypique aussi dans le manga et dans l'art au Japon. Hein.
Bah oui, c'est un homme à tête d'oiseau déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il a une tête toute noire avec un bec blanc. On l'a rencontré il y a 12 ans maintenant, en 2002. Je séjournais au Japon à ce moment-là et puis la maison d'édition était en plein pourparlers. C'était l'effervescence ici en France et j'étais en lien avec ses amis avec lesquels on s'apprêtait à monter cette maison d'édition, mais la maison d'édition n'existait pas encore. On faisait qu'en parler. Et j'étais en quête d'éventuels auteurs puisque j'étais au Japon et que bon, voilà, c'est quand même un endroit où on se dit qu'on peut trouver des auteurs de bande dessinée. Et c'est surtout un endroit très, très étrange où la bande dessinée est une industrie. Donc je me disais que soit du côté de l'artisanat, aux marges de l'industrie, il y avait des auteurs à trouver, soit du côté de l'industrie, mais de l'ordre de l'accident industriel, il y avait aussi des choses à trouver. Et c'est finalement dans la marge, côté artisanat, que ça s'est fait. En feuilletant des magazines, des revues de manga dans les librairies, je suis tombé sur un récit incroyable qui était comme une espèce de rêve accompli, quoi. Une bande dessinée que j'aurais toujours rêvé de rencontrer sans jamais avoir pu la concevoir moi-même, quoi. C'était vraiment le rêve d'une bande dessinée parfaite, quoi. C'était le récit qui s'appelle Livre, qu'on a publié dans l'ouvrage Combat. Parfait, à tel point que je me demandais comment un auteur pourrait aller plus loin. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus ou d'autre que cette bande dessinée-là? Ça me semblait être une bande dessinée unique d'un auteur qui avait tout dit en une seule fois. Mais il y avait quand même dans le magazine une référence, la référence d'une exposition qui avait lieu au même moment à Tokyo. C'était son exposition de peinture. J'y suis allé, et puis les galeristes, les peintures étaient absolument hallucinantes. C'était magnifique. Et très différente des mangas, avec quand même des personnages qui ressemblaient, mais quelque chose de très différent, très plat. Et les galeristes m'ont donné aimablement son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, puis on s'est rencontré très simplement. Il est venu avec des planches, il m'a montré son travail qui s'étalait sur déjà 10 ans. Il avait déjà une œuvre colossale derrière lui, et tout était plus magnifique les uns que les autres, quoi. Tout était superbe. Et il était encore en train de travailler, il avait sans cesse des projets en route. J'ai découvert un type qui travaillait énormément, qui faisait que travailler, quoi, qui avait une production colossale. Et qui n'avait pas d'éditeur, parce qu'en dehors de ses revues et de ses magazines dans lesquels il publiait un tout petit peu, il collaborait aussi à des revues de littérature pour lesquelles il faisait des petites illustrations. Et puis il faisait des illustrations de livres, de couvertures. À part ça, aucun éditeur lui avait fait suffisamment confiance pour lui confier la réalisation d'un livre. Donc quand je lui ai proposé qu'on le publie en France, il était ravi, quoi. Et il nous a dit que c'était OK et qu'il nous confiait toute son œuvre et qu'on pouvait tout publier. Ça a commencé comme ça. Et puis après, très vite, on a été rattrapé par le Japon. Enfin, à partir du moment où on lui a dit qu'on lui a assuré d'être publié en France, un éditeur japonais s'est intéressé à lui et a commencé à le publier aussi. Et ça, voilà, sa carrière de mangaka a démarré comme ça. Et il est sorti de l'anonymat. Comme ça. Il était convaincu, lui, de ne rencontrer aucun éditeur de sa vie. Bah, c'était peut-être un peu une pause un peu romantique, mais il était quand même convaincu que ça n'allait pas lui arriver de sitôt. Il était déterminé à travailler dans l'obscurité, comme un monomaniaque, sa bande dessinée. Ce qu'il faisait avec une rigueur parfaite. C'était pas, ça, rien n'a changé, en fait, depuis qu'il est publié. Son travail est resté strictement le même. Donc c'est en ça que c'est un personnage effectivement assez particulier, c'est-à-dire que rien ne vient influer sur son travail, quoi. Aucune commande, aucune pression, aucun cadre d'aucune sorte ne vient influer sur son travail. Il fait ce qu'il a à faire et c'est tout. Et on n'a pas grand-chose à lui dire.
On a quand même ici un livre qui est stylistiquement quelque chose d'assez différent de ce que moi j'avais lu de lui, le seul livre que j'avais lu auparavant, qui était très rigoureux, très géométrique. Et ici, on a quelque chose qui travaille sur un registre totalement différent, très lâché. Et chaque planche a l'air d'être jetée en quelques minutes, ce qui doit probablement être faux, mais et qu'on est dans une accumulation paroxystique et jouissive d'anecdotes visuelles, de petits moments répétés, répétitifs d'ailleurs. Dans le cas de sa production, ceci est une rupture, est un prolongement et une des pistes parallèle, un peu comme dans le travail de Richter, on peut avoir parallèlement de l'abstraction pure et puis d'un autre côté du réalisme photographique.
Ouais, la comparaison avec Richter est pas mal. Ouais. Il est de plus en plus en train d'ouvrir son travail sur des pistes multiples comme ça. Il poursuit son travail en noir et blanc rigoureux comme on lui connaît, avec des lignes fines, des aplats de couleurs, des aplats de noir, des aplats de blanc, des trames. Ça se poursuit. Il ne l'abandonne pas et en même temps, il fait de plus en plus ce genre de choses. Il fait des collages aussi. Qu'on verra apparaître sans doute prochainement. Il explore des pistes, il en ouvre toujours de nouvelles sans jamais fermer les précédentes. Celui-ci, en même temps, est assez révélateur de son travail, du travail rigoureux qu'il a en noir et blanc, dans le sens où quand il fait une planche en noir et blanc, il passe par 20-30 étapes d'esquisse. C'est absolument un travail absolument hallucinant, quoi. Il produit énormément de travaux préparatoires, de planches préparatoires, avant de peu à peu épurer les lignes et arriver à cette espèce de perfection géométrique. Et ça, Baby Boom vient montrer son travail d'esquisse, tout en étant factice, c'est-à-dire que c'est du faux jeté, c'est de la fausse spontanéité. Là aussi, c'est très très préparé, il y a 20 planches préparatoires pour chacun de ces faux crobards, quoi. Et ne serait-ce que pour enchevêtrer les deux couleurs, la plupart du temps il dessine en deux couleurs, un rouge, un bleu. Le rouge tantôt passe sous le bleu, tantôt c'est l'inverse, c'est le bleu qui passe sous le rouge. Et ça, évidemment, c'est très très préparé, quoi. Alors après au moment de poser le trait, c'est quelque chose de très vigoureux, de vif, de rapide. Mais il a fallu 20 planches préparatoires pour en arriver là. Et pour arriver aussi à cette saturation de l'espace et de la planche qui caractérise Baby Boom, qui est beaucoup plus forte que dans son travail en noir et blanc. C'est un travail sur la saturation de l'espace et la saturation visuelle. Et comme Richter, la comparaison avec Richter me semble bonne en ça qu'il dresse face au spectateur comme un mur de peinture, quoi, comme un mur d'image impénétrable. Et il faut du temps pour arriver à passer le mur, quoi. Yokoyama a dessiné les originaux au feutre, avec des feutres souvent très lumineux, parfois fluo, qui lui avaient été donnés dans le cadre... Il avait fait un travail dans sa galerie à Tokyo, un travail qui avait donné lieu à une exposition et puis à la publication d'un livre chez Picturebox, son éditeur américain. Et notamment d'un grand livre magnifique qui a gagné un prix de la fabrication au Japon. Et ce livre qui s'appelle Baby Boom Final, dans lequel on retrouve des encres fluo, puis des collages, des choses comme ça. Bref, le galeriste avait fourni à Yokoyama un lot de feutres extrêmement coûteux, et il a travaillé jusqu'à épuisement des feutres pour faire Baby Boom. Et quand je suis retourné le voir l'hiver dernier pour lui demander comment mener le travail, en fait, on n'était pas content du tout de l'édition japonaise de Baby Boom, qui est sortie en 2009 chez East Press au Japon. Le livre était imprimé en quadrichromie et restituait absolument pas la vivacité, la couleur des feutres. Tout était extrêmement écrasé comme ça par une quadrille ordinaire. Et il n'y avait pas moyen de faire autrement en quadrille. Ils avaient certainement fait de leur mieux, mais la quadrille ne peut pas faire mieux que ça. Donc on n'avait pas du tout envie de faire ça comme ça. Et c'est ce qui explique qu'on a mis tant de temps à le publier. C'est aussi qu'on a attendu d'avoir les moyens de le faire. On savait que le livre serait très, très cher à produire. Donc on a attendu d'avoir de l'argent dans les caisses. Et en attendant, on a préparé les choses en identifiant les couleurs majoritaires et comment, en augmentant le nombre de couleurs en offset, on pourrait élargir la gamme colorée. Donc on a sélectionné 6 couleurs comme ça, dont 2 fluo. Et puis on a travaillé sur une machine 8 couleurs en réalité, mais on a utilisé 6 cylindres seulement. Mais on a travaillé exactement comme la quadrille, mais avec 6 couleurs au lieu de 4. Donc il y a des mélanges, c'est pas du ton direct, dans le sens où il y a de la trame, mais il y a des mélanges, les couleurs se mélangent optiquement sur le papier. Mais il y a cet effet de vivacité qui donne même parfois l'impression que le trait a été tracé au feutre directement sur la page, quoi. Et évidemment, ce qui a impliqué un gros travail de photogravure, où chaque trait a dû être sélectionné dans Photoshop, isolé. Non seulement chaque trait, ce qui est déjà beaucoup, mais chaque croisement de traits aussi, parce que pour restituer la couleur qu'on obtient, comme sur cette page-là, en croisant un vert et un jaune, on obtient une couleur intermédiaire, c'est peut-être pas la plus visible là, mais enfin on obtient une couleur intermédiaire au feutre, par le mélange de feutre, que évidemment le mélange des encres quadrines ne restituerait pas. Donc il faut également sélectionner chaque croisement de traits et lui attribuer une valeur d'encre spécifique, ce qui fait un nombre d'opérations, un nombre de sélections absolument hallucinant. Il a parfois fallu tricher, réinjecter une troisième couleur, par exemple, pour restituer ce type d'effet-là, une intensité en bout de course du feutre, ou bien au démarrage, et puis ensuite le trait s'atténue. Il a fallu parfois rajouter une troisième couleur et accentuer les traits. Donc ça, c'était comme un... C'est pas si loin de ce que Séverine Basquert de l'Institut Sérigraphique a fait avec les sérigraphies. Il a fallu intervenir dans les fichiers et redessiner, réinterpréter en tout cas le dessin pour lui donner son aspect d'origine.
Donc voilà, je me disais peut-être que tu allais nous révéler une recette incroyable, mais non, vous avez fait un travail de malade mental. C'est ça la vérité, quoi. Donc c'est très...
Vous prenez vraiment le relais, en fait, avec la fabrication du livre. Est-ce qu'il est content de l'édition française du bouquin ?
Alors, c'est travailler avec Yokoyama, qui est un homme qui a une tête noire avec un bec blanc, hein, qui est quand même pas un homme comme les autres. C'est toujours quelque chose d'un peu spécial, quoi. Quand il a reçu le livre, il nous a rien dit. Alors, on lui a quand même posé la question. Ça va ? Comment vous l'avez trouvé ? Et il nous a dit, alors là, je cite in extenso ses paroles, « C'est joli. » Voilà, ça suffisait en guise de compliment. Travailler avec Yokoyama, c'est ça, c'est le mur d'image devant lequel on est quand on le lit. On est à peu près devant la même impénétrabilité quand on est face à lui. Il est extrêmement ouvert et chaleureux, voire même généreux, mais en même temps...
Est-ce que vous pensez qu'il est porteur de cette exigence que vous avez mis, ou est-ce que c'est vous qui avez l'impression de faire un travail d'hommage, de plein respect de son travail que lui-même n'aurait pas demandé ?
Lui-même ne le demande pas. Ouais, c'est ça qui est frappant. Il le demande pas. Quand son éditeur japonais fait Baby Boom en quadrichromie un peu terne, il a aucun reproche à lui faire, il le laisse faire son travail. Ce qui est remarquable chez Yokoyama, c'est qu'il a une exigence folle concernant sa propre production, mais ce que les autres font de sa production peut-être l'indiffère, ou en tout cas il refuse d'interférer avec le travail de l'autre. Il y a vraiment chez lui un grand respect du travail mutuel, quoi. Chacun fait son travail. Si tu le fais pas très bien, ça te regarde, ça le regarde plus lui. Il est capable de laisser son œuvre partir comme ça dans des mains hasardeuses, sans jamais trouver à redire. Donc nous, effectivement, on se sent investi de la mission de faire le mieux possible. Enfin, on essaie d'être à la hauteur de sa production, mais sans jamais non plus être certain de qui sera satisfait du résultat ou qu'on sera vraiment à la hauteur. D'autres ont peut-être moins de scrupules et font des choses et il est tout aussi content. Enfin, j'imagine qu'il leur dit c'est joli aussi.
Un autre travail assez délicat avec ce livre, c'est que le japonais, le texte japonais fait partie du dessin. Et donc vous avez dû injecter une typo, j'imagine. Et vous avez pris le parti, parce qu'on découvre ici au OFF ou au Festival d'Angoulême des choses étrangères, et souvent ce qui se fait, c'est qu'on a un texte en bas de page, ce qui est assez désagréable. Et vous avez pris le parti d'injecter du texte. J'imagine que c'est vous qui avez fait ça. Est-ce que tu peux nous dire des choses par rapport à ça ou...
Ça, on l'a fait dès le départ, en fait. Les éditions Matière héritent d'un passé cinématographique. En fait, les gens qui ont fondé les éditions Matière, dont je suis, animaient auparavant une structure qui s'appelait Dojo Cinéma et qui était dévolue à la production de films, la production et projection de films. On a une approche de la bande dessinée qui est assez nourrie de ça aussi, du rapport au cinéma. Ça nous a semblé assez évident quand on a commencé à travailler avec Yokoyama que ces onomatopées devaient être traitées comme des bancs-titres ou comme des sous-titres de cinéma. Et qu'il fallait en effet que ce soit très très direct, quoi. Ils sont là, les onomatopées au fond sont pas là pour nous renseigner sur le bruit que font les objets, ils sont là pour nous, enfin c'est une indication graphique supplémentaire, c'est du dessin avant tout. Donc il fallait qu'on les voit eux en priorité et puis ensuite simplement avoir la transcription sonore pour indiquer que c'était rien d'autre que pof, paf, pif, et puis que c'était pas la peine de s'y attarder, qu'en réalité il suffit de regarder les formes parce que véhicule le son. C'est pas très très important de savoir si on fait pan ou si on fait pam. Il faut se débarrasser de la question assez vite et du coup ne pas être dans une lecture presque universitaire avec des notes de bas de page en effet et qui viennent rompre la lecture. Il y a aussi le souci chez Yokoyama d'avoir une lecture très vive, très rapide. Il fallait pas entraver cette rapidité-là. Donc en fait, mais ça s'est fait très simplement avec lui. En fait, on communiquait à l'époque par fax et on lui a envoyé des essais de transcription des onomatopées. Et puis il a porté son choix sur une certaine formule. Et c'est comme ça qu'on est resté fidèle à cette formule-là. C'est un lettrage semi-mécanique en fait, c'est un lettrage manuel. Ce sont des lettres qu'on a dessinées à la main. Mais à partir de lettrage mécanique, et on les applique encore une à une dans Illustrator, chaque lettre est posée une à une, avec des petits décalages, enfin pour respecter une espèce de graphie manuelle, malgré tout, pour qu'il n'y ait pas la raideur de la machine. Voilà, là aussi c'est quelque chose de très, très artisanal. Bon, il y a des fois où on ne le répète pas, d'ailleurs, quand on a un zac-zac-zac un peu trop très, très très répétitif, on le met sur deux cases, trois cases, et puis on ne le mettra peut-être pas sur la quatrième ou la cinquième. Il y a des ajustements comme ça qu'on fait au coup par coup, et selon l'encombrement de la case, selon divers critères qui sont avant tout graphiques. L'écriture, c'est avant tout du dessin. Donc il faut rester dans ce registre-là, on était surtout attentif à ça.
Quand on a trouvé un auteur aussi paradigmatique par rapport à la maison d'édition, ce qui semble être le cas, tu t'en es expliqué assez clairement, est-ce qu'il n'y a pas le danger que ce paradigme est tellement fort qu'il est quasiment impossible de retrouver d'autres auteurs qui viendraient compléter, nourrir, enfin donner du travail, même si c'est un livre ou deux par an, à la maison d'édition ?
Oui, c'est pas simple. Y a deux aspects. Il y a l'aspect paradigmatique et puis il y a aussi l'aspect du talent. Enfin, c'est quand on a trouvé un Yokoyama ou un Chris Ware ou un Jos Vaart ou un Topfer ou un George Herriman, c'est pas facile de publier quelqu'un d'autre après, quoi. Donc il y a surtout cet aspect-là, quoi, d'un talent un peu écrasant et puis qui en plus avec le temps maintenant est devenu un modèle pour beaucoup de dessinateurs. Quand des gens viennent, de jeunes auteurs viennent et nous proposent des manuscrits dont on voit bien qu'ils ont été largement inspirés par Yokoyama lui-même, c'est là que le paradigme devient modèle et ça devient embarrassant, ça devient gênant. Mais sinon, on résout relativement bien les choses en étant souvent à l'origine des projets. C'est-à-dire qu'on approche parfois des dessinateurs qui ne sont pas forcément des dessinateurs de bande dessinée parce qu'on aime leurs traits ou parce qu'on pense que leurs traits pourraient être susceptibles de porter la ligne qu'on défend. Et on vient leur proposer des projets. On vient travailler avec eux sur la définition du livre. C'est quand même, on a assez peu reçu de projets clés en main qu'on aurait publié tel quel. On a assez souvent été à l'origine des projets ou bien dans un rapport de suivi très étroit avec les auteurs. Au risque d'en faire trop, enfin, au risque de les justement débrider un peu trop, ou de les frustrer, ou au risque du malentendu aussi, au risque de faire des demandes qui ne correspondraient pas à leur travail réel ou à leurs intérêts réels. Mais il y a par exemple une autre production qu'on considère comme manifeste dans notre catalogue, qui est l'ouvrage qui s'intitule « La méthode Bernadette ». Et c'est une voie totalement différente de celle de Yokoyama, et pourtant pour nous c'est vraiment une publication qui reflète très exactement ce qu'on entend défendre et ce qu'on entend produire en bande dessinée. Et en l'occurrence, il s'agissait d'un travail de montage, là aussi très proche d'un montage cinématographique, à partir d'images qui n'ont pas du tout été produites dans le contexte de la bande dessinée, qui n'ont pas non plus été produites pour nous. Les images préexistaient, c'est un corpus d'images qu'on a retrouvé, qui avait été réalisé par des bonnes sœurs dans les années 30, dans les Vosges. Ces images existaient et n'étaient pas vouées à donner de la bande dessinée. C'est nous qui les avons remontées sous la forme d'une bande dessinée et pour raconter leur histoire, comme ça, on leur a redonné un sens et une succession narrative qui n'était pas du tout la leur au départ. Mais cette manière, en tout cas, de s'emparer d'images et de les ordonner et de les faire raconter quelque chose, ça oui, c'est un autre paradigme qu'on est susceptible de porter. Donc il y a aussi, heureusement, la maison ou la ligne ne repose pas sur un paradigme unique. Ça donne heureusement l'occasion de rencontrer d'autres artistes que celui-ci.
Comme on le disait tous en début d'émission, on est ici au FOF du Festival d'Angoulême. C'est vraiment apparemment un choix délibéré de votre part. Pourtant, vous êtes aussi diffusé plus par le comptoir des indépendants, mais par les belles lettres aujourd'hui, qui regroupent un peu tous les éditeurs qu'on appelle de bande dessinée indépendante. Donc pourquoi ce choix d'être au FOF ?
À mes parents, j'ai dit que ça s'appelait Festival Off. J'ai pas du tout dit que c'était Fuck Off.
On changera au montage.
D'accord, merci. On vient depuis assez peu de temps à Angoulême. On est venu la première fois il y a 3 ans et on était invité sur le IN par le biais d'une organisation institutionnelle de la région Île-de-France. Donc on avait un stand, c'était très luxueux. On était chez les gros, quoi. Et on était là dans cette espèce de cirque, là, dans des circonstances assez diverses. Il y a plein de... On pourrait faire une autre émission là-dessus, quoi. Il s'est passé beaucoup de choses, mais en tout cas, on était au milieu de tout ça. Et ça nous, d'abord, les gens ne s'intéressaient pas à nos livres, ça c'était très clair. On s'est rendu compte que, je ne sais pas, on avait une approche un peu ignare du monde de la bande dessinée jusque-là, alors que ça faisait quand même 7 ans qu'on en faisait, mais finalement, on n'avait pas été au contact de toute la bande dessinée, probablement, et on a découvert ce que c'était que ce clivage du public, quoi. Incroyable. Et puis ce traditionnalisme que porte la bande dessinée. Les gens qui viennent dans la bulle New York, ils viennent absolument pas pour visiter la bulle Nouveau Monde, ils viennent pour voir cette bande dessinée-là, et puis la plupart du temps même pas pour voir toute la bande dessinée qui est présente sur le stand, ils viennent pour voir la production de chez Glénat ou la production de chez Casterman, et puis pire encore, l'auteur unique de chez Casterman ou l'auteur unique de chez Glénat dont ils vont quémander une dédicace, un gris-gris sur un bas de page, quoi. Donc c'était assez hallucinant de voir ça, quoi. Des gens qui faisaient parfois la queue devant notre stand, qui s'emmerdaient copieusement. Ils étaient en attente d'une dédicace, ça durait parfois 2 heures. Ils attendaient d'avoir un petit chien dessiné sur la première page de leur album, et ils n'avaient même pas la curiosité, pendant ces 2 heures-là, de distraire leur ennui en ouvrant les bandes dessinées qui étaient sous leurs yeux. Il y avait d'autres livres comme ça à portée de la main. Ils avaient les mains libres et ils avaient que ça à faire. Et jamais, jamais un seul n'a pris un livre, ne serait-ce que pour regarder par curiosité comme ça. Ça m'a profondément choqué. Et puis bon, et puis après il y a aussi le mépris des gens qui tiennent les stands d'à côté, des choses comme ça, qui font que on n'avait pas l'impression d'être vraiment dans un festival, quoi. En tout cas, c'était pas la fête. Donc on a un peu tout circulé quand même, on s'est un peu libéré, on a un peu circulé. C'était à ce moment-là que le Festival Offre renaissait, mais c'était dans un coin un peu isolé de la ville. Je suis passé là et j'ai vu des punks à chiens et de la musique un peu trop fort, et il y avait pas mal de bière, et c'est aussi là que pour la première fois depuis 4 jours, j'ai vu des vrais dessins, enfin, j'ai vu des créateurs, des choses qui étaient vraiment, vraiment intéressantes, quoi, qui m'intéressaient et qui étaient de l'ordre, pour le coup, de la création, quoi. Donc je me suis dit que c'était plutôt là que ça se passait. Et on a donc décidé l'année suivante d'être du côté du off, c'est-à-dire aux côtés des créateurs et puis aussi dans une ambiance festive, quoi. C'est quand même tous les soirs là que se déroulent les meilleurs concerts de la ville, ou parfois les pires, mais au moins quelque chose qui porte un peu d'intensité, quoi. C'est là qu'on boit de la bière en quantité, et c'est là que sont les créateurs, ça c'est très clair. C'est là que sont les gens du côté des producteurs, c'est là qu'est le vif de la création, et du côté des visiteurs, c'est là aussi qu'est la plus grande curiosité. Les gens qui viennent ici sont très très ouverts, et les gens qui viennent ici ne se privent pas également de visiter justement la bulle Nouveau Monde ou la bulle New York. Eux sont ouverts sur le reste de la création et puis sur celle-ci aussi. Ce qui n'est pas vrai en symétrie, donc ce serait dommage d'être ailleurs qu'ici. C'est vraiment ici que le Festival d'Angoulême se passe, ouais. C'est très clair.
Ça, c'est dit.
le tout prochain bouquin, c'est la réédition d'un livre qui n'a jamais été publié à l'étranger. C'est un livre norvégien qui date de 1971, qui s'appelle Procon. C'est une espèce d'œuvre. Ça ressemble beaucoup aux bandes dessinées de Guy Pellaert, en fait. L'auteur Peter Horst était un graphiste. Et sa trajectoire et sa production font beaucoup, beaucoup penser à Guy Pellaert. Quand on a essayé de publier nos éditions matières, c'est comme ça qu'on en est venu à s'intéresser à Peter Horst, à rencontrer Peter Horst. Moi, j'avais rencontré Pellaert à la fin de sa vie. Et j'avais essayé de le convaincre de publier chez nous, de republier Jodel, Les Aventures de Jodel. Pravda était déjà réservé par le Seuil, donc ça nous était interdit, mais au moins publier Les Aventures de Jodel. Et puis finalement, il est décédé, et puis ça n'a pas pu se faire. Mais on gardait cet intérêt très fort pour cette bande dessinée très, très minoritaire qui était à la jonction avec le pop art. Il s'est produit très très peu de choses comme ça, influencées par l'esthétique pop et psychédélique en bande dessinée pure. Il y a eu beaucoup d'illustrations, mais pas beaucoup de bande dessinée. Et Peter Horst était un graphiste qui avait fait ça. Alors pour le coup, plus politique que Pellaert. Ces bandes dessinées sont des espèces de critiques sociales, mais en même temps, c'est des œuvres de grand guignol, quoi. On y croise Frankenstein qui invente un spray d'éternité pour figer les produits industriels dans dans une anti-obsolescence qui va faire effondrer le capitalisme mondial. Enfin, c'est vraiment des récits assez délirants et très brefs, et avec une esthétique très 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 forte et des qualités graphiques incroyables. Ça, c'est la prochaine parution au mois de mai. Et puis ensuite, on va faire un livre avec Stéphane Trappier, qui est le type qui travaille pour Flûte Glaciale d'abord, qui fait des strips dans Flûte Glaciale, mais surtout qui fait les affiches du théâtre du Rond-Point à Paris. Et qui est quelqu'un de très très drôle, quoi, dont les dessins sont extrêmement drôles. Ça va pas lui faire plaisir si jamais il entend l'émission. Enfin, ça fait beaucoup penser aux illustrations de Glenn Baxter, quoi. C'est cet humour-là. Et avec des dessins basés sur la photographie qui sont très très beaux, avec des très belles couleurs. Voilà. Et puis ensuite, un livre, ce sera la troisième et dernière production de l'année. Ce sera un livre signé par Risto, qui est un auteur avec lequel j'avais déjà fait Notes sur le sumo. Un livre sur le sumo, cette fois-ci. Et il a travaillé longuement sur la catastrophe de Fukushima. Qu'il assimile, qu'il apparente, qu'il identifie à la catastrophe qui dévaste le monde, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui est très baudrillardien dans son approche des images et des textes. Et voilà, donc ce sera un livre sur la disparition du monde, quoi. Ça s'appelle Le nom de la neige. Voilà.
Okay. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bonne fin de festival.